Chapitre 45. Vera se mit en route par ses températures à pierre fendre. À chaque inspiration, elle avait la sensation que ses poumons allaient se fragmenter. L'air sifflait dans sa gorge et lui provoquait des douleurs au niveau du larynx. La neige, elle, était dure à la surface, molle dessous, si bien que, une fois la fine couche de givre cassée, sa raquette s'enfonçait de quelques centimètres, entravant sa marche. Elle s'engagea dans la montée et rapidement retrouva les arbres marqués qui balisaient le chemin. Elle n'arrêtait pas de songer au téléphone. Les ondes lui déclenchaient d'ordinaire des maux de crâne insupportables. Elle avait d'ailleurs enduré un véritable parcours du combattant pour qu'on lui diagnostique son hypersensibilité. Elle était même allée à l'hôpital de... Quel hôpital déjà? Elle se creusa la cervelle, mais rien n'y fit. Elle ne se rappelait plus non plus les examens qu'elle avait subis. Elle n'avait aucun nom de médecin en tête. Juste des silhouettes en blouse blanche qui, un jour, s'étaient occupées d'elle. Que lui arrivait-il? Pourquoi était-elle incapable de se remémorer les lieux, les visages, dès qu'elle se référait à son passé? Et que signifiait son absence de réaction aux ondes de ce fichu portable? Existait-il un espoir infime pour qu'elle puisse quitter cet enfer et réintégrer la vraie vie? Ou y avait-il quelque chose de beaucoup plus psychologique qu'elle ne l'imaginait dans sa pathologie? Elle rabattit les pattes de son bonnet sur ses oreilles, resserra son cache-nez. Seules ses pommettes affrontaient le vent coupant comme un scalpel. Partout des cristaux de glace scintillaient, les branches des pins semblaient en faïence. Vera avait l'impression d'évoluer au cœur d'une de ces boules souvenirs qu'on secouait, enfermée sous un dôme de verre. Non, elle était condamnée à errer dans un labyrinthe plutôt. Un dédale d'arbres sans issue, une forêt destinée à la garder prisonnière. Le soleil n'était plus au zénith lorsqu'elle distingua les grands aplats brillants en contrebas sur sa gauche. Les étangs. Ça signifiait qu'elle était à une quinzaine de minutes du chalet d'André. Vera repensa aux quelques lignes que son amie lui avait lues, à l'étang en forme de cacahuète, à la hutte. Pourquoi Sophie avait-elle décrit cet endroit particulier dans son manuscrit? Pourquoi avait-elle parlé de vérité? Vera bifurqua dans cette direction. Comme l'avait mentionné la page 65 des Recluses, un détour s'imposait. Elle était consciente, encore une fois, de coller à la prédiction, de contribuer, en quelque sorte, à sa réalisation. Mais elle n'avait pas le choix, c'était le seul moyen de comprendre. Elle veilla, en avançant, à rester près des arbres. Les berges et une partie des surfaces gelées étaient des champs de coton. Dessous, la couche de glace devait être solide, mais Vera avait toujours à l'esprit son cauchemar, le corps immobile dans l'eau, ce face-à-face avec son propre visage quand elle avait retourné le cadavre. Si elle chutait là-dedans, c'était certain, elle mourrait. Heinrichs et ses satanées prémonitions auraient eu raison d'elle. L'étang qui l'intéressait se dessina finalement derrière une bande serrée de sapins. Il formait un huit presque parfait et, comme lui avait expliqué André l'été précédent, offrait une étape idéale aux oiseaux de passage à l'automne. Vera remarqua le mirador, à l'extrémité de la boucle la plus large du huit. Il était érigé sur une impressionnante structure en bois. Dès lors, un insolite et furtif souvenir lui revint en tête. André et elle, en train de disputer une partie d'échecs au sommet de la tour. Elle baissa les paupières pour tenter d'attraper d'autres images, mais tout avait déjà disparu. Que se passait-il? Que lui arrivait-il? Le froid lui tapait peut-être sur le système. Elle but une gorgée de thé pour se réchauffer et pressa le pas, avec la hutte en ligne de mire. Définitivement, rien de tout ça n'avait de sens. D'ici, elle était à 2 heures minimum de marche de la route la plus proche. Personne ne venait en ces lieux si reculés depuis que le hameau avait été déserté, et le vieil ours était le seul qui continuait à utiliser cette construction qui datait du temps où la chasse était essentielle à la survie. Alors bon sang, comment Sophie Heinrichs avait-elle fait pour découvrir l'endroit? Au prix de gros efforts, Vera parvint au pied de l'affût, qui, tout là-haut, à 10 mètres du sol, mesurait environ 3 mètres sur 3 et était percé de fenêtres sur tous ses côtés. Elle ôta ses raquettes, respira un instant, observant les environs. Pas la moindre trace de vie, pas un son, juste une armée de pins immobiles, l'un des paysages les plus beaux et les plus effrayants qu'il lui ait été donné de voir. Elle s'agrippa au barreau en bois de l'échelle et entama une montée prudente, vérifiant chaque fois ses prises. Le verglas se déployait partout, y compris sur la partie arrondie des traverses. Enfin, après une ascension interminable, elle se hissa sur la mince plateforme à bout de souffle. Des arbres, encore et toujours des arbres à l'infini. Loin, très loin à l'horizon, elle devinait à peine les premiers contreforts des montagnes. Elle ouvrit la porte en rondant. Droit devant, face à une fenêtre, se dressait un vieux fauteuil en cuir noir à moitié éventré. Le sommet d'une casquette en dépassait. André ? C'était sorti tout seul. Vera savait pourtant déjà que celui qui était assis là ne lui répondrait pas. Parce que, aussi certainement que deux et deux font quatre, il était raide mort. L'adrénaline qui envahit ses veines lui fit oublier le froid. Elle s'avança au ralenti. Par terre gisaient par centaines des cadavres de mouches. Sur le dos, ou recroquevillés, des pupes, des enveloppes vides de larves. Elle ne put éviter de les faire craquer sous ses pas tant ils étaient nombreux. Elle repéra un pack de canettes, des emballages en papier aluminium qui avaient dû contenir des sandwichs et du matériel de chasse. Puis se figea devant le corps, un cri suspendu aux lèvres. Le visage avait disparu. Les cheveux s'étaient détachés du crâne par mèches. Ne restait plus que le masque osseux facial, les orbites creuses ainsi qu'une poignée de tendons et de ligaments, sombre et sec, accroché aux mâchoires. Une veste à carreaux et un pantalon de treillis habillaient le squelette aux trois quarts décharné et bouffé par la vermine. Un fusil reposait sur ses genoux, couvert d'un film de poussière, et une canette entamée trônait à l'extrémité de l'un des accoudoirs. Vera se recula jusqu'à buter contre le mur, secouant la tête avec frénésie. Cet individu était selon toute vraisemblance mort depuis des mois. Ça ne pouvait pas être André. C'était impossible. Elle avait encore discuté avec lui la veille. Mais qui habitait ces bois hormis lui? Abasourdie, elle se prit la tête entre les mains. Une voix résonna en elle. Un extrait du manuscrit de Sophie. Ce que je découvrirais sur place me conduirait sans doute vers ce que j'avais toujours essayé de fuir, la vérité. Mais quelle vérité, putain! Un nuage blanc s'était échappé de sa gorge. Il fallait qu'elle sorte d'ici, qu'elle se rende vite au chalet d'André pour contacter les gendarmes. Il n'y avait que ça à faire. Dans la précipitation, son pied cogna contre un tas de détritus, et quelque chose qui se trouvait dessous roula sur le plancher. Elle ramassa l'objet avec cette sensation affreuse de tanguer sur le pont d'un navire en plein naufrage. Elle tenait, au creux de son gant, la pièce en bois qui manquait à son échiquier. Le fou noir.